Chapitre 12. Harlem nocturne. La mort viendra, et elle aura tes yeux. Cesare Pavese. 1. Subitement gelé, Franck Muselier abandonna ses canettes de bière sur les tomettes posées à même le sol et rentra à l'intérieur. Son salon était à son image, usé, décrépit, pathétique. Une pièce basse de plafond, en désordre, bardée de boiseries qui s'écaillaient et ornée de trophées de chasse qui prenaient la poussière. Une tête de sanglier empaillée, des bois de serre, une gélinotte des bois naturalisée. Il alluma une flambée dans la cheminée et avala une lampée de Riesling. Mais ce n'était pas suffisant pour se réchauffer et oublier l'histoire de Claire Carlyle. Dans sa réserve personnelle, il ne restait qu'un peu de shit et deux ou trois cachets. Pas ce dont il avait besoin ce soir. Il envoya un SMS à son fournisseur, Laurent Esco, un petit branleur de lycéen qui se faisait appeler Escobar. C'était une réalité dont on ne parlait pas quotidiennement au journal télévisé. Mais en milieu rural aussi, la dope était partout. Parmi les affaires que traitait Muselier, cambriolage, agression, règlement de compte, la drogue n'était jamais très loin. Même dans des bleds pittoresques et fleuris de 300 habitants, on trouvait de la poudre blanche derrière les pétales des roses. « Ok, pour 2 grammes », répondit le dealer presque dans la minute. En l'attendant, Franck se laissa tomber sur son canapé. Il se faisait pitié. Mais la pitié n'était pas suffisante pour impulser le moindre changement dans sa vie. Du combat que se livraient en lui la volonté et la pesanteur, c'était toujours cette dernière qui sortait vainqueur. Le gendarme déboutonna sa chemise, se massa les cervicales. Il respirait mal, il avait froid. Il aurait eu besoin de la chaleur et de l'odeur réconfortante de son chien. Mais le vieux Mistoufle était mort au printemps dernier. La ligne de démarcation. Coupable ou non coupable. Comme il n'arrivait pas à statuer sur son sort, il s'imagina en train de défendre sa cause devant un tribunal imaginaire. Les faits, rien que les faits. 9 ans plus tôt, il avait renversé une gamine qui n'avait rien à foutre sur cette route en pleine nuit. Il l'avait conduite jusqu'à l'hôpital et il avait prévenu. Certes, il était bourré, camé jusqu'au trognon, mais il avait fait l'essentiel. Après, si la gamine avait préféré fuir, eh bien, elle était aussi coupable que lui. Il entendit le bruit d'une bagnole qui arrivait. Escobar n'avait pas traîné. Muselier, esclave de la coke, se mit debout d'un bond. Il ouvrit la porte et sortit sur la terrasse, distinguant une silhouette à travers la pluie. Quelqu'un avançait dans sa direction. Mais ce n'était pas Escobar. Lorsque l'ombre se fit plus précise, le gendarme constata qu'une arme était pointée sur lui. Stupéfait, il ouvrit la bouche, mais fut incapable de prononcer le moindre mot. La ligne de démarcation, coupable ou non coupable. Visiblement, un autre avait décidé pour lui. Il baissa la tête en signe de soumission. Finalement, c'est peut-être aussi bien comme ça, pensa Franck, avant que sa boîte crânienne n'explose. 2. Harlem, 9h du soir. Le taxi nous laissa au niveau de la station de métro d'Edgecombe Avenue. Coogan's Bluff Self Storage, le garde-meuble que m'avait indiqué Gladys, se situait dans l'enceinte des Polo Grand Towers, un ensemble de HLM de briques, des hautes tours en forme de croix, qui donnait l'impression de se dupliquer à l'infini sur une large zone triangulaire coincée entre le fleuve, Harlem River Drive et la 155e rue. L'air était chaud et humide, le quartier peu éclairé. De nombreux locataires s'étaient pourtant regroupés dehors, assis en bande sur les murets et les pelouses. L'atmosphère était électrique, mais pas très différente de certains coins de l'Essonne où j'avais passé mon adolescence. Sauf que tout le monde ici était noir. Je me dis que j'étais dans un film de Spike Lee, du temps où Spike Lee faisait encore de bons films. Dans la tiédeur de la nuit, j'avais déplié la poussette et installé Théo à l'intérieur. Pour amuser mon fils, je conduisais la voiturette avec un bruit de Formule 1. Les gens nous regardaient avec curiosité, mais nous laissaient en paix. Au bout de plusieurs minutes de vadrouille, J'arrivai tout essoufflé devant le bâtiment que je cherchais. J'entrai dans le local et me présentai. À cette heure-ci, le responsable était un étudiant un peu hautain qui tapotait sur son MacBook. Sa grande silhouette dégingandée flottait dans un sweatshirt de l'Université Columbia. Son visage sévère était constellé de boutons d'acné et tassé par une coupe en brosse afro et une paire de lunettes oversize dont les montures pourtant épaisses laissaient déborder ses sourcils fournis. « C'est pas vraiment un endroit pour les bébés », dit-il en photocopiant ma carte d'identité. « Il devrait être au lit, non ?»« Il est en vacances. Il n'y a pas de halte-garderie demain. » Il me lança un sale regard qui semblait demander « Tu te fous de moi, mec ?» Et tel était bien le cas. Malgré cette discrète passe d'armes, il me montra sur un plan l'emplacement du box. Je le remerciai et, à nouveau, je parcourus le hangar en imitant le bruit d'une voiture de course.
« Otto, papa, lui vite, papa, lui vite !»
me lançait Théo pour m'encourager. En arrivant devant le garage, je simulais un dérapage avant d'immobiliser le bolide. Puis je libérais mon fils de la poussette et soulevais le rideau de fer. Bien entendu, il y avait de la poussière, mais moins que je l'avais imaginé. Je pris Théo dans mes bras, qui lui-même portait Fifi, son doudou, dans les siens, allumai l'ampoule et pénétrai à l'intérieur. La mémoire du passé. Il fallait que je garde à l'esprit le contexte dans lequel avaient été rassemblées toutes ces choses. Angela et Gladys avaient entreposé ces affaires à la mort de Joyce, en 2005, 2 ans avant qu'on recueille l'ADN de Claire chez Heinz Kiefer. À cette époque, les sœurs avaient sans doute encore un mince espoir qu'on retrouve la jeune fille et que les biens de sa mère lui reviennent un jour. Le box était spacieux, mais désordonné. Je progressais dans le Capharnaüm avec mon fils, comme si je l'emmenais explorer la caverne d'Ali Baba. Toujours partant pour l'aventure, Théo s'extasiait devant tout ce qu'il avait sous les yeux. Des meubles en bois peint, un vélo, une patinette, des habits, des ustensiles de cuisine.
« On descend, papa, s'il te plaît !»
Je le posai sur le sol pour le laisser jouer. Il en serait quitte pour un grand décrassage en rentrant à l'hôtel. Je me mis au boulot sérieusement. Il y avait peut-être ici quelque chose de suffisamment compromettant ou de dangereux pour que quelqu'un ait pris le risque d'y mettre le feu. Des DVD, des CD, des journaux, des livres. Beaucoup d'essais et de romans, et pas n'importe lesquels. Une histoire populaire des États-Unis, de Howard Zinn. La fabrication du consentement, de Noam Chomsky. La jungle, d'Upton Sinclair. Le peuple d'en bas, de Jack London. Nos logos, de Naomi Klein. Des biographies aussi, Lucy Stone, Anne Braden, Bill Clinton, Malcolm X, Les Neufs de Little Rock, César Chavez. Je trouvais même un exemplaire en anglais de La domination masculine de Pierre Bourdieu. Comme ses sœurs, Joyce Carlyle était une femme cultivée, aux sensibilités féministes et proche de l'extrême gauche, ce qui n'était pas si courant aux États-Unis. Je trouvais aussi des habits de fillette qui devaient appartenir à Claire, ainsi que ses livres de classe. Un peu ému, je feuilletais ses cahiers d'écolière, remplis d'une calligraphie appliquée. Parmi d'autres devoirs, je m'arrêtais sur une dissertation qu'elle avait composée. Pourquoi je veux devenir avocate ? Une argumentation généreuse qui citait aussi bien Ralph Nader qu'Atticus Finch. C'était en 2005, bien avant que l'Amérique ne découvre quel salaud il était vraiment. En parcourant ces lignes, un souvenir me revint. Marlène Delatour m'avait affirmé que Claire voulait devenir avocate. Au moment de sa disparition, cela semblait déjà un projet professionnel mûri et bien établi. Qu'est-ce qu'il avait finalement décidé à devenir médecin ? Sa détention, sans doute. Une volonté d'aider les autres de façon peut-être plus concrète ? Je mis néanmoins l'information dans un coin de ma tête et poursuivis mes recherches. Au bout de 3 quarts d'heure, Théo était épuisé. Après s'être traîné partout, il était sale comme un peigne. J'inclinai la nacelle et le couchai dans sa poussette. Puis le père indigne que j'étais aggrava son cas en lui diffusant un dessin animé sur son iPhone ébréché pour l'aider à s'endormir. J'y passerai peut-être la nuit, mais il était hors de question que je quitte cet endroit bredouille. Il y avait de quoi faire. De la paperasse en pagaille. Factures, relevés bancaires, fiches de paie, etc. Heureusement, Joyce était ordonnée et avait pris soin de classer toutes ses archives dans des dossiers cartonnés. Alors que mon fils dormait du sommeil du juste, je m'assis en tailleur et commençai à tout éplucher. Pas grand-chose de marquant. Depuis des années, Joyce travaillait comme documentaliste dans un collège des environs. Sa mère, qui était la véritable propriétaire de la maison, la lui louait pour une bouchée de pain. Elle dépensait peu, n'avait pas d'autre source de revenus que son métier. Quelque chose retint mon attention au milieu de cette paperasserie. Une série d'articles qu'elle avait découpés dans le New York Herald et qu'elle conservait dans une pochette en plastique. Je parcourus les titres. Le surendettement des classes moyennes. Les inégalités atteignent des records en Amérique. L'accès à l'avortement, toujours plus ardu. La moitié des membres du Congrès sont millionnaires. Wall Street contre Main Street. Quel était le point commun de ces articles en dehors de leur caractère progressiste? Après les avoir lus en diagonale, je n'en trouvais aucun. Je me mis debout pour m'étirer. Difficile de ne pas se décourager. Peut-être Marc avait-il trouvé quelque chose de son côté. J'essayais de l'appeler, mais il n'y avait pas de réseau dans le sous-sol. Je me replongeais dans les dossiers de Joyce. Un mode d'emploi pour monter une armoire IKEA, des notices de fonctionnement et des bons de garantie, four, téléphone portable, lave-linge, machine à café. Stop. Je revins en arrière. La notice qui avait retenu mon attention était celle d'un téléphone prépayé. Le ticket de caisse qui était resté agrafé portait comme date le 30 mai 2005, 2 jours après l'enlèvement de Claire. Je me remis debout, au comble de l'excitation. Dans les éléments de l'enquête que m'avait confié Gladys, j'avais bien noté que les policiers avaient scruté les relevés téléphoniques de la ligne fixe et du portable officiel de Joyce. Mais cette dernière possédait manifestement un autre téléphone, un modèle sans abonnement, à carte prépayée, beaucoup plus compliqué à tracer. Le plus troublant n'était pas tant l'existence de ce téléphone que le fait que Joyce en avait fait l'acquisition quelques dizaines d'heures après l'enlèvement de Claire. Les hypothèses se bousculèrent dans ma tête, mais j'essayais de ne pas m'emballer. Galvanisé, je me remis au travail. La chance appelle la chance. Les habits. Un épisode important de mon adolescence s'était joué à cause d'un costume. Ma mère, qui redoutait que mon père la trompe, avait mis au point un système élaboré de surveillance. Je vous parle d'un temps préhistorique, avant Internet, Facebook, les logiciels mouchards et les sites de rencontres. Mon père était très prudent, mais il avait suffi d'une fois. Il suffit toujours d'une fois. Une note d'hôtel oubliée dans la poche d'un costume. Ma mère était tombée dessus en emportant le complet au pressing. Comme elle ne supportait pas de vivre dans le mensonge, elle avait quitté son mari, renoncé à la maison accueillante et à la vie douce que nous avions à Antibes. Elle était retournée à Paris, ou plutôt en banlieue parisienne. Et moi, je l'avais suivie. Contraint et forcé, j'avais quitté mes amis, la quiétude du vieux collège Roustan, la possibilité d'aller voir la mer tous les jours, les balades dans la Pinède ou sur les remparts. Je l'avais suivie dans le gris et le béton de l'Essonne. Une part de moi l'admirait pour ce choix. L'autre la détestait. J'appliquais le même traitement aux habits de Joyce et fis les poches à toutes ses robes, tous ses blousons, vestes, chemisiers et pantalons. J'y trouvais un ticket de métro, un stylo, de la monnaie, des tickets de course, des bons de réduction, un tampon, un tube d'aspirine, une carte de visite. Une carte de visite qui ne portait qu'un nom et un numéro de téléphone. Je l'observais avec attention. Florence Gallo, 212 132 52 78. Ce nom m'était familier. À coup sûr, je l'avais vu ou on m'en avait parlé récemment. Je tombais d'épuisement. Des fourmis couraient dans mes membres. La poussière me piquait les yeux, mais mon cœur battait fort. C'était une sensation agréable. Celle de savoir que l'on a mis le doigt sur quelque chose d'important et d'être persuadé que l'on finira par trouver quoi. Je comprenais la passion de Karadec pour son ancien métier. L'air s'était rafraîchi. Je couvris mon fils avec ma veste. Et je quittai les lieux en calant sous la poussette le maximum de pochettes cartonnées pour pouvoir encore les étudier à l'hôtel. Je demeurai un moment dans le hall du garde-meuble, sous le regard toujours aussi peu bienveillant de l'étudiant boutonneux, pour commander un VTC sur l'application de mon téléphone. En l'attendant, je tentai à nouveau de joindre Marc. Mais mon appel sonna dans le vide. Dans la foulée, j'essayai d'appeler cette Florence Gallo. Le numéro de votre correspondant n'est plus attribué. Puis un SMS sur mon téléphone me prévint que ma voiture était arrivée. Je quittai l'enceinte des Grand Towers et rejoignis la berline. Aimable, le chauffeur m'aida à plier la poussette et à la charger avec les dossiers cartonnés dans le coffre. Je m'installai à l'arrière avec Théo dans les bras, en prenant garde à ne pas le réveiller. Intérieur cuir, musique classique, bouteille d'eau. La voiture roulait dans la nuit. Spanish Harlem, Upper East Side, Central Park. À mon tour, j'avais fermé les yeux. Je sentais le souffle précieux de mon fils dans mon cou. Alors que je commençais à me laisser aller à une douce somnolence, une image traversa mon esprit et je lançai soudain au chauffeur « Stop, arrêtez la voiture, s'il vous plaît !» Il mit son clignotant et se gara en double file en allumant ses feux de détresse. « Pouvez-vous déverrouiller le coffre ?» Je sortis en me contorsionnant. Mon fils ouvrit un œil inquiet.
« Fifi, il est là ?»«
Oui, bien sûr qu'il est là, » répondis-je en attrapant le chien en peluche. « Fais-lui un gros câlin. » Je fouillai dans le coffre et, avec ma seule main libre, je saisis la pochette contenant les articles de journaux. Je savais à présent qui était Florence Gallo. C'était la journaliste qui avait signé tous les articles du New York Herald découpés par Joyce. Je regardais les dates des papiers. Ils avaient tous été écrits entre le 14 et le 20 juin 2005, une période correspondante à la semaine qui avait suivi la venue de Joyce en France. Je me remémorai les images du journal télévisé où je l'avais vue si abattue. Une hypothèse folle traversa mon esprit. Et si l'affaire Claire Carlyle n'était qu'une suite tragique de l'affaire Joyce Carlyle? Si la malédiction des Carlyle avait pour origine non pas l'enlèvement de Claire, mais un autre événement plus ancien, lié directement à sa mère. En tout cas, une chose était certaine. À la manière de poupée gigogne, mes investigations recouvraient une enquête à plusieurs tiroirs. Je remontai en voiture avec mon fils. J'avais appris beaucoup de choses cette nuit. D'abord que Joyce s'était procuré un téléphone intraçable 2 jours seulement après l'enlèvement de sa fille. Puis que, dans la semaine qui avait suivi son retour de Gironde, elle était entrée en contact avec une journaliste d'investigation, sans doute pour lui confier quelque chose d'important. Quelques jours plus tard, elle était morte. Le véhicule se remit en route. Un frisson me parcourut l'échine. Je n'en avais pas la moindre preuve, mais j'avais à présent la conviction que Joyce Carlyle avait été assassinée. 3. L'autoroute ayant le pouvoir de le faire somnoler comme un mauvais film, Karadec avait choisi d'emprunter les chemins de traverse pour rentrer à Paris. Il s'arrêta dans une station-service à la sortie de Vitry-le-François. Son voyant d'huile s'était rallumé depuis quelques kilomètres. La station allait fermer, mais le petit jeune qui était en train d'arrêter les pompes accepta de lui faire un plein. Marc lui tendit un billet.
« Rajoute-moi de l'huile et laisse le bidon dans le coffre. »
Dans le magasin, il acheta le dernier sandwich disponible. Pain nordique industriel et saumon bourré de toxiques. Il sortit le déguster à l'extérieur tout en vérifiant son portable. Il découvrit un SMS de Malika Ferchichi, l'aide médico-psychologique du foyer Sainte-Barbe. Un message aussi surprenant que laconique. « Si vous voulez m'inviter à dîner, j'ai du temps en fin de semaine. M.F. » Immédiatement, le souvenir de l'odeur entêtante du corps de la jeune femme revint flotter dans son esprit. Des effluves de mandarines, de poires et de muguet. Une lueur dans la nuit de son âme. Troublé par la pulsion de vie qu'il sentait monter en lui, il garda sa réponse en réserve et composa le numéro de Raphaël. Répondeur, message.
J'ai du nouveau, du lourd. Rappelle-moi pour me dire si t'as trouvé quelque chose de ton côté.
Café, cigarette, plaisanterie avec le garagiste alors que la pluie recommençait à tomber. Karadec se réfugia dans le Range Rover, mit le contact et vérifia les voyants du tableau de bord. Il démarra, marqua le stop à la sortie de la station et en profita pour allumer une nouvelle cigarette. Là, alors qu'il rêvassait encore au message de Malika, une vision le cueillit à froid.
Putain de bordel de merde.
La voiture qui venait de passer devant lui à toute vitesse était un X6 BMW noir. Karadec avait reconnu les vitres teintées et la double calandre chromée. Il aurait mis ses attributs à couper que c'était la voiture qui avait enlevé Claire. Traversant la route pour s'y engager en sens inverse, Karadec prit le 4x4 en chasse. Il ne pouvait pas s'agir d'une coïncidence. Que faisait le SUV dans ce coin perdu? Il parvint à le rejoindre, mais resta à bonne distance, espérant glaner d'autres informations. Pas question de se faire repérer. Branchant la ventilation, il essuya le pare-brise embué avec sa manche. Il tombait à présent une pluie lourde et obstinée, fouettée par le vent. Juste après un virage dangereux, le X6 tourna 100 mètres de clignotant pour s'enfoncer sur une route de campagne qui ne portait aucun panneau indicateur. Karadec le suivit sans hésiter. Plus il avançait, plus l'état de la chaussée se détériorait. On n'y voyait pas à 10 mètres. L'accès était étroit, cerné par les broussailles et les rochers. Même si le 4x4 ouvrait la piste devant lui, Marc progressait difficilement. Ce n'est que lorsqu'il s'aperçut qu'il aurait du mal à faire demi-tour, qu'il comprit qu'il avait été piégé. De fait, le X6 pila brutalement. Armé d'un fusil à pompe, une silhouette en manteau sombre jaillit du véhicule et avança vers Karadec. Dans la lumière des phares, Marc reconnut son visage.
« Bon sang !»
Il retint sa respiration. Dans sa tête, les traits de 4 femmes se mélangeaient. Élise, sa fille, Malika, Claire. Face à lui, son assaillant épaula son fusil et le mit en joue. Non, c'était trop con. Il ne pouvait pas mourir maintenant. Pas si près du but. Pas avant d'avoir résolu l'affaire Claire Carlyle. Une détonation claqua, secoua la voiture et fit exploser le pare-brise du Range Rover.